Karine Rossignol, bonjour.
Bonjour.
Robert Marino, bonjour.
Bonjour.
Olivier Amédée Hanem, bonjour. On vous bonjour. Appelle, vos intimes vous appellent OAM.
C'est ça.
Qui ne veut pas dire orthèse d'avancée.
Non, ça ne veut rien dire de plus.
Ok. Donc vous êtes professeur des universités, pédiatre et pathologue, et vous êtes le directeur de Paris Biotech Santé, situé à l'intérieur de l'hôpital Cochin.
Mm-hmm.
Ça existe depuis quand
Alors, il y a deux structures, en fait. Vous avez Paris Biotech Santé, qui est l'incubateur, qui existe depuis 21 ans. Et puis ensuite, on a ajouté, il y a 14 ans, Paris Santé Cochin, qui est une pépinière hôtel d'entreprise et qui a doublé au bout de 7 ans. Donc ces deux structures, l'une est dans la faculté de médecine, l'incubateur, et l'autre est dans l'hôpital Cochin, qui est la pépinière hôtel d'entreprise. L'un fait de l'ordre de 800 mètres carrés et l'autre en fait 5000 mètres carrés utiles.
D'accord. Et c'est quoi la différence pour ceux qui nous écoutent, entre incubateur et pépinière ?
Eh bien, on va essayer de faire tout simple. Vous avez la maternité, c'est-à-dire vous attendez de créer votre entreprise, puis ensuite vous avez les premiers pas, qui durent quand même quelques années, nous c'est 2 ans, jusqu'au moment où vous arrivez au collège. Donc ça, c'est l'incubateur. Mm-hmm. Puis quand vous avez levé votre argent, vous avez votre organisation de société, votre structure qu'on a aidée, eh bien vous allez en pépinière, hôtel d'entreprise, vous avez beaucoup moins besoin de nous, et vous avez plus besoin de surface, de laboratoire, et c'est ça la deuxième étape.
Donc ça coûte un peu plus cher pour la...
Pardon ?
Ça coûte un peu plus cher pour la boîte, pour
ça
la start-up.
Oui, mais comme on est quand même dans des structures qui sont énormément aidées, soit par exemple par l'EP, soit par la ville de Paris, soit par la régie immobilière de la ville de Paris, soit par l'État, les loyers que nous avons, alors dans l'incubateur c'est quasiment rien, et dans la pépinière sont en dessous de tout ce qui existe dans Paris.
Et pourquoi hôtel alors ?
Eh ben, les deux premières années, vous êtes dans l'incubateur, vous prenez les premiers pas. Puis après, vous ne savez pas bien où aller, mais surtout, il y a extraordinairement peu d'endroits où vous pouvez aller. À Paris, on en manque énormément. Je vous donne un exemple. À chaque fois, l'année dernière, lorsqu'on a eu 200 mètres carrés de disponibles, on a eu, dans l'hôtel, on a eu pour 8000 mètres carrés de demandes. Donc, hôtel, c'est qu'on a le droit de rester 4 ans. Et puis, pépinière, c'est 4 ans. Et l'hôtel, on a le droit de rester encore un peu plus.
D'accord. Et combien de start-up sont passées par votre... Incubateur d'abord.
Ah bon, les incubateurs, il y en a à peu près un peu moins de 200. Et on a un taux de survie qui est à 3 ans, qui est de 94%, et à 5 ans, de 84%. Pour la pépinière, on en a une cinquantaine qui sont effectives. Et le taux de survie est à 100% à 3 ans, et 95% à 5 ans, ce qui donne quand même des très bons taux.
Et c'est votre conseil qui sélectionne évidemment les startups.
Nous avons
ce qui veut dire que vous avez du flair.
Je ne sais pas si on a du flair, mais on a une méthodologie très précise, et donc cette méthodologie est transparente et permet de savoir qui on prend dans l'incubateur, qui on prend dans la pépinière, et tout cela est transparent. Mais je vais vous donner un ou deux chiffres, si vous le voulez bien.
Rapidement ?
Oui, rapidement. Quand vous êtes dans l'incubateur à lever depuis le début, de l'ordre de 19 millions d'euros par an, et pour la pépinière, c'est 113 millions d'euros avec une année assez exceptionnelle qui est l'année dernière, qui est à 195 millions d'euros. Tout ça est quand même, permettez-moi de le dire, soutenu donc par la paix de Paris, par la ville de Paris et la RIVP, par l'université, par l'ESSEC, par l'école centrale, par l'INSERM, donc on a quand même, et par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, donc on a quand même beaucoup de gens qui nous aident.
Karine Rossignol, vous dirigez donc Startim Immune, on prononce Immune, hein, à l'anglais. Oui, vous êtes pharmacien d'origine.
Pharmacien HEC.
Oui, vous êtes passé par HEC, vous avez une longue expérience dans des grands groupes, hein. Vous êtes passé par LVMH, Unilever, L'Oréal, et vous dirigez votre start-up que vous avez cofondée en 2017. Alors expliquez-nous, start-up, c'est une société de thérapie cellulaire qui est spécialisée en immuno-oncologie, c'est bien ça ?
C'est exactement ça. Donc nous, on réarme le système immunitaire pour lui permettre de retrouver toute sa capacité à combattre et les infections, et les cancers. Et
ça vous dites que le système immunitaire est sous le contrôle du thymus ?
Du thymus.
La fameuse glande, oui.
Donc c'est un organe lymphoïde qui est incroyablement sophistiqué. On a trouvé le moyen, en fait, de faire un espèce de shortcut pour pouvoir capitaliser sur ce thymus et sur tout ce qu'il peut apporter, en fait, aux patients qui sont en situation de fragilité. Donc, pour leur redonner un système immunitaire complètement fonctionnel qui leur permet à nouveau de se battre ou contre les infections ou contre les cancers. Et ça, on a pu le faire, on est en essai clinique.
Et ça, c'est nouveau, c'est une technique assez nouvelle.
On est complètement, les front-runners, c'est tout à fait nouveau. Mm-hmm. On est en train d'évaluer l'efficacité de nos traitements en France, à l'étranger, à la fois sur des maladies hyper rares du système immunitaire, comme les bébés bulles, ça c'est en France,
bien sûr, ouais.
Ou comme sur les leucémies qui sont à haut risque réfractaire à la chimiothérapie. Et là, on fait ça à New York, au Memorial Sloan Kettering Center.
Et donc pour l'instant, les retours sont positifs.
Les premiers résultats sont très encourageants.
On croise les doigts. Robert Marino, vous êtes ingénieur de chimie, c'est ça ?
Tout à fait.
Vous êtes titulaire d'un master en nanotechnologie de Sorbonne Université, d'un doctorat sur les répéteurs quantiques. Vous avez cofondé Deep Tech Founders, un programme d'accélération Deep Tech, c'est ça, de premier plan donc en France. Et vous êtes fondateur de Qubit Pharmaceutical, primé maintes fois.
Maintes fois, oui, j'en suis le président depuis 2 ans, oui.
Alors, vous développez, donc, c'est ça, des nouveaux médicaments qui sont plus sûrs et plus efficaces.
Oui, en fait, on a une plateforme de conception de médicaments assistés par ordinateur qui s'appelle Atlas et qui nous permet, grâce à la simulation et à la prédiction, de concevoir sur nos ordinateurs des petites molécules chimiques, atome par atome. En fait, on va créer des jumeaux numériques de la cible que l'on veut moduler dans le corps humain, une protéine, un brin d'ARN, un brin d'ADN. On va voir où est-ce qu'il faut taper sur cette cible et grâce à cette information, on va pouvoir vraiment construire sur l'ordinateur notre molécule pour qu'elle soit parfaitement adaptée à la cible.
Parlez de chimie quantique. Expliquez un petit peu ce que c'est que la chimie quantique.
Alors, la chimie quantique, c'est la science qui permet de prédire et de calculer les interactions de la matière, des atomes, les uns avec les autres. C'est une science qui est assez vieille, hein, ça a plus d'un siècle. Et en fait, avec l'arrivée de l'informatique, ça a permis de commencer à résoudre les équations qui sont extrêmement complexes de façon de plus en plus approximée, de mieux en mieux. Et aujourd'hui, on arrive à des points de rupture où on arrive à faire ça de manière extrêmement prédictive.
Et donc, vous travaillez avec d'autres, avec des partenaires, bien sûr, de l'industrie pharmaceutique ou pas ?
Oui, on a des programmes en cours, en partenariat, qu'on dévoilera un peu plus tard dans l'année, début d'année prochaine. Et on lance nos propres programmes de découverte de médicaments en oncologie et en inflammation.
D'accord. Vous aussi, j'imagine, Karine ? Que vous travaillez aussi un petit peu avec l'industrie pharma ?
Bien sûr, on ne peut rien faire tout seul dans notre domaine. Quand on innove, on a nécessairement besoin de beaucoup, beaucoup d'expertise. Mmh. Et il est extrêmement... En fait, le temps est vraiment la clé. Ça, je pense que c'est vrai pour toi aussi. Donc, la seule façon d'aller vite, c'est de trouver les bons partenaires, les bonnes expertises, justement pour accélérer la capacité à valider les hypothèses scientifiques qu'on a formulées. Donc, une fois que vous avez validé vos essais cliniques, vous êtes capable d'aller chercher de l'argent et d'accélérer la machine.
Alors justement, vous êtes passés tous les deux par... Paris Biotech Santé. Comment ça s'est passé là aussi, c'est une candidature, on vous a cherché
Candidature, hein, ouais. Non, la sélection est dure, voire redoutable. Non, elle est bienveillante, mais elle est réelle et c'est normal.
Donc, j'imagine qu'il y a plus d'offres que de demandes que d'offres.
On a 70 demandes, 70 à 80 par an et on en prend en gros 11.
D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez pris là aussi le flair?
Il y a un comité d'études. Il y a une méthodologie très simple, c'est-à-dire on commence par les voir en plusieurs étapes et ensuite on les met devant un comité où il y a un président et vice-président,
évidemment.
Un comité d'une quarantaine de personnes qui est libre de proposer de les prendre ou pas. Et on a toujours, depuis la naissance, fait ce qu'ils ont dit. Donc c'est totalement indépendant et ça permet de choisir les meilleurs. Et alors on vérifie très régulièrement si on ne s'est pas trompé. On a la chance de ne pas avoir refusé des gens qui ont très bien réussi derrière.
Alors Robert et Karine aussi, mais qu'est-ce qui fait que... Pourquoi vous êtes dans un incubateur ? Quel est l'intérêt principal ?
Pour nous, c'est la force de l'écosystème. On est une société qui développe des médicaments, donc on a une expertise dans développer des molécules, les identifier, les concevoir. Par contre, ce que l'on est venu chercher au sein de cet écosystème, c'est la connaissance de la maladie, c'est le lien au patient. Parce qu'en fait, vous avez un ordinateur, vous avez un logiciel, vous pouvez faire n'importe quoi aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est d'appliquer ces méthodes à des vraies pathologies où il y a vraiment un besoin.
C'est ce que je disais en introduction, à la vraie vie.
Exactement. Et en étant au sein de l'écosystème, on est avec des pairs, on a accès aux médecins de l'hôpital, aux cohortes de patients, on peut échanger et on est sûr de faire des choses qui apportent un bénéfice pour la société et pour les patients.
Karine, une vraie synergie, c'est ça, entre les différents acteurs de l'écosystème ?
Bien sûr, indispensable. Nous, on travaille d'ailleurs avec d'autres sociétés de la pépinière. Je citerai Metaphora, qui a une technologie assez géniale qui permet d'évaluer le métabolisme des cellules. Et comme nous, on utilise des progéniteurs, donc des cellules très jeunes, qui permettent d'améliorer et d'allonger quelque part les résultats cliniques. Je prends l'exemple des CAR-T, par exemple. Mm-hmm. On est en train de développer avec eux une évaluation justement de nos médicaments.
C'est ça, ouais.
Exactement. Mm-hmm. À durer beaucoup plus longtemps et avoir des marqueurs de métabolisme qui démontrent que notre sous-type de cellule peut apporter quelque chose justement à l'industrie. Et on n'aurait pas été à l'incubateur. Jamais rencontré.
De rajouter quelque chose. La grande force que l'on a, c'est pas uniquement le génie qu'on peut avoir dans la tête, c'est qu'on est au milieu de l'hôpital, au milieu d'une université qui est Paris-Cité, on peut remercier, près des patients, près des médecins, près des infirmières, près des aides-soignantes, près, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la vraie vie. Et quand eux, ils ont un souci, ils ont, soit dans l'hôpital, soit pas loin dans un autre hôpital, la réponse à la question très vite. Et en plus, on a une chance formidable, c'est qu'on est en plein milieu de Paris.
Vous avez fait justement une levée très récente de fonds, oui, de 19 millions d'euros. Vous n'auriez pas pu le faire sans être passé par l'incubateur ?
Ça nous a grandement accéléré. Le fait de savoir exactement sur quel type de pathologie et quelle orientation prendre, c'est ce qui permet de mieux convaincre des investisseurs et le faire dans de meilleures conditions.
Je disais, Olivier, que en introduction, 2030, c'est bien, mais c'est déjà trop tard.
Oh là, excusez-moi d'être un peu critique. 2030, c'est dans 8 ans. Et si on regarde les choses froidement, on est dans une compétition non pas franco-française ou franco-européenne, mais dans une compétition mondiale. Si on regarde ce qui se passe à Singapour, à Tel Aviv, à Boston, ça va à une vitesse incroyable. Si on n'a pas, nous, pris le train et gagné la partie dans les 4 ans qui viennent, le train, il sera passé. Et c'est en cela où je trouve que 2030 est un peu loin. Et je trouve que les orientations qu'on prend en parlant énormément d'intelligence artificielle me gênent un peu, parce que ce n'est qu'un outil. Et il le sait bien mieux que moi, ce n'est qu'un outil, mais ce qui compte, c'est de mettre au point des médicaments, des dispositifs médicaux, un service aux patients, imprégné d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas le centre.
Évidemment.
C'est le malade, le centre.
Oui, l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, en fait.
Absolument.
Oui.
Il y a un risque d'errance, de vouloir, en utilisant de mauvaises données ou en partant sur n'importe quoi, d'essayer de trouver des corrélations, mais en fait, ce n'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est vraiment de partir.
Alors justement, on a l'impression que ces dernières années, on a pas mal, nos pouvoirs publics ont investi pas mal d'argent, mais qu'est-ce qui fait qu'on soit trop lent, Karine,
par rapport aux autres... Processus décisionnel extrêmement lent en France.
Au niveau quoi ? Au niveau réglementaire ? Au niveau administratif ?
Administratif, vous mettez en place un essai clinique, ça vous prend 9 mois, 1 an, 1 an et demi. Vous allez aux États-Unis, vous allez mettre 6 mois. Nous, il y a des essais, on va inclure aux États-Unis des patients leucémiques avant. On a commencé l'essai 2 ans plus tard, on inclura avant les malades américains plutôt que les malades français. Ah ouais. Il y a quand même un problème quelque part.
Ah ouais, c'est ce qui s'était passé avec Carmat, qui était obligé d'aller
partir,
faire ses essais au Kazakhstan.
On fait un peu trop de politique et pas assez de concret. Voilà, on pourrait le dire comme ça, sachant qu'il y a pourtant des gens qui se remuent énormément. Moi, je saluerais la BPI, qui a fait un travail d'un activisme et d'une rapidité extraordinaire contre des choses qui sont d'une lenteur absolument hallucinante.
Et pourtant, on est toujours à la traîne.
C'est pas suffisant.
Mais quand on voit une crise comme le Covid, on était quand même très absent. Donc il faut quand même se replacer et se dire qu'on fait beaucoup, mais qu'il faut faire encore mieux et très vite. Moi, je fais toujours une comparaison. On a inventé l'iPhone il y a 14 ans. Et depuis 8 ans, vous avez l'iPhone qui est partout et vous ne pouvez plus vous en passer. Et donc, ça s'accélère à une vitesse extraordinaire. Dans 8 ans, on en sera où ? Si on attend 8 ans,
à l'iPhone 12 ou 26 ?
Non, ce que je veux dire, c'est que dans notre monde de la santé, tout s'est accéléré de façon exponentielle. Et 4 ans, c'est l'échéance qu'on peut comprendre. On ne peut pas savoir à 8 ans.
Alors vous, justement, qui êtes dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille plus vite, Robert ?
En fait, j'aimerais partager avec vous une petite anecdote. Quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, on rencontrait souvent des grands cadres de l'industrie. Et il y en avait un qui m'avait dit, tu sais, je vais te donner la recette pour réussir ta carrière. Elle tient en 6 lettres, PV, MV, PV. Pas de vague, mon vieux, pas de vague. Et malheureusement, c'est ce qu'on nous apprend dans ces écoles. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à secouer les choses, à avancer. Et c'est vrai que chacun doit se sentir responsable. Et en fait, c'est normal d'échouer. En France, on ne veut surtout pas échouer.
On n'a pas la culture du fail.
Et c'est vrai. Échouer, en fait, c'est ce qui se passe tous les jours. On échoue plusieurs fois par jour, mais on apprend, on continue. Être dans exactement ce que vous venez de dire, dans la culture du faire, chaque jour, être content d'avoir fait progresser son sujet, d'être allé un peu plus loin, quitte à parfois se tromper, se planter, rater, ou devoir challenger le statu quo. Mais c'est pas grave, il faut avancer.
Bien sûr. Olivier, une des fonctions aussi de Paris Biotech Santé, c'est l'internationalisation.
C'est de les aider à l'internationalisation, mais je vais dire que nos moyens sont suffisamment limités pour rester modestes, essayer d'internationaliser d'abord en Europe. Après, on n'a pas les outils, nous. D'autres les ont, mais les outils pour aller beaucoup plus loin que l'Europe. Je vais vous donner un exemple pour revenir sur le 2030. Nous, on essaie de se développer. On a mis en route quelque chose avec la mairie de Paris en 2019, fin 2019, et on aura 5000 m² supplémentaires en 2023. Donc on est bien dans les 4 ans. Et les choses, elles doivent se faire non pas en 8 ans, mais en 4 ans, parce que c'est l'échéance qu'on doit avoir pour réussir.
Robert, conclusion,
tout à fait
qu'il faut faire.
avancer chaque jour, réussir, pousser, enfin repousser les limites et ne pas attendre justement à très long terme. Comme vous le disiez, on est dans le quotidien et il faut que chaque jour les choses avancent. C'est vraiment ça une start-up en fait. Chaque soir faire le bilan de ce qu'on a réussi à faire. Mmh. Et 8 ans c'est une belle vision long terme, mais la réalité c'est qu'il faut surtout penser à 3 ou 4 ans devant soi. Oui.
Vous aussi vous êtes stressé par ce temps qui passe trop vite ?
Il est essentiel. Ouais. Nos concurrents vont deux fois plus vite que nous, ils ont commencé après nous.
Mais il y a une question d'argent aussi, il y a une question de financement, une
Bien
question
sûr.
De temps.
Nous, on va avoir besoin de 130 millions d'euros. Mm-hmm. On ne va pas pouvoir les trouver seulement en Europe. Donc, les fonds avec lesquels on discute outre-Atlantique nous disent déjà, il faut déménager. Donc, tout ça, ça se prépare.
Donc, c'est le risque un peu, c'est ça, en fait.
On n'aura pas
le choix.
Risque,
ouais.
Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir rester ici. Mm-hmm. On est en train de valoriser des brevets qui sont des brevets français qui ont été payés avec les impôts de nos concitoyens. Et on a besoin d'ouvrir le système. Mm-hmm. Donc, il faut qu'on puisse créer de la valeur ici. Ouais. Et si on ne donne pas les moyens d'aller suffisamment vite, on n'aura pas d'autre choix que de traverser l'Atlantique. Mmh. Et c'est
dommage. Vous aussi, Robert ?
On a déjà un pied là-bas. Et d'ailleurs, pour désolé de te contredire, Olivier, mais tous nos partenaires et prestataires avec qui on travaille à Boston, on les a trouvés grâce au réseau PBS. Parce qu'Olivier a demandé aux sociétés qui étaient déjà là-bas qui pouvaient nous aider. Donc en fait, il est modeste, mais il y a déjà des liens aux États-Unis grâce à eux. Mais oui, il faut être là-bas. C'est à Boston principalement que se prennent toutes les décisions. Après, un peu d'optimisme, les choses ont beaucoup changé en France, ça avance bien et en effet, le soutien de BPI France a été essentiel pour nous. C'est ce qui nous a permis en fait de jouer dans à armes égales quasiment avec des sociétés américaines.
Eh bien, merci Karine Rossignol, merci Robert Mano, merci Olivier Amédémanem. J'espère que vous serez entendus. On va à présent accueillir un homme sur lequel on a investi beaucoup. Depuis des années d'ailleurs, et on a eu raison, Daniel Benamouzig, président du conseil scientifique de l'école des hautes études en santé publique, est sur le plateau de Check-up Santé, après vous.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Daniel Benamouzig, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez un CV plus long que l'Ancien Testament, hein. Vous êtes archi connu dans le monde de la santé, vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes titulaire de la charte santé Sciences Po, membre du conseil scientifique Covid-19, donc vous n'avez pas dû chômer depuis 2 ans et demi, et enfin, tout nouveau président du conseil scientifique de l'EHESP, l'école de hautes études en santé publique. C'est vrai que vous êtes un peu un spécialiste hein, de l'histoire de l'économie de la santé, des transformations institutionnelles, de la régulation du secteur sanitaire, c'est bien ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. Moi, à la base, je suis chercheur, hein, je suis sociologue, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille depuis assez longtemps sur les politiques de santé, sur l'organisation des services de santé d'une manière transversale, d'une manière générale, effectivement.
Ouais. Et donc, cette grande école, hein, qui est une grande école, hein, elle a été créée, je crois, en 2004, hein, c'est ça ?
Elle a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, si l'on veut.
Oui, c'est son nouveau nom, je voulais dire.
Son nouveau nom, elle a été créée, elle a été renommée et relookée au début des années 2000, en 2004, effectivement, sous le nom de HESP. Elle est plus connue traditionnellement sous le nom de l'école de Rennes, qui forme et qui forme toujours les
particularités
d'hôpital.
Sympa, elle est à Rennes.
Elle est à Rennes.
Le siège est à Rennes, c'est bien ça.
C'est ça, et elle a une fonction d'une école nationale qui forme donc les directeurs des établissements médico-sociaux,
les cadres hospitaliers,
les ingénieurs, des missions d'inspection. Donc, toute une série de formations qui ont un caractère réglementaire.
Pas facile d'y entrer, non ?
On rentre sur concours. C'est un concours qui est assez sélectif. C'est un concours de la fonction publique à haut niveau que préparent des étudiants, qui préparent aussi d'autres grandes écoles, disons, de la fonction publique, y compris l'INSP, la nouvelle mouture de l'ENA. Donc, elle s'inscrit dans ce paysage-là et elle contribue, effectivement, à alimenter en compétences le secteur sanitaire, le secteur médico-social depuis maintenant assez longtemps.
Et donc une mission de recherche. En quoi consiste-t-elle cette mission de recherche ?
Oui, alors il y a une mission de recherche, évidemment en santé publique, qui est un domaine qui mérite qu'on s'y attarde, qui mérite qu'on investisse sans doute davantage qu'on ne l'a fait au cours des décennies antérieures, et on le voit bien à la faveur de ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi, à faveur de l'épidémie. Il y a un vrai enjeu de constituant de connaissances, de partage de ces connaissances, de formation d'un certain nombre de professionnels. Au-delà des formations dont on a parlé, l'école forme aussi un certain nombre d'étudiants à travers des masters de santé publique en particulier. Et il y a plusieurs centaines d'étudiants qui sont formés chaque année dans ces domaines-là et qui ensuite irriguent en quelque sorte les compétences qu'ils ont acquises.
Donc, il y a pas mal d'étudiants en médecine qui passent aussi.
Alors, il y a des profils extrêmement variés. Mm-hmm. Il y a aussi des pharmaciens. Il y a aussi il y a des gens qui viennent de Sciences Po, ma maison, en quelque sorte, et qui participent effectivement à ce vivier. C'est une belle maison. C'est une école qui voilà, qui produit ce type de formation, qui est un véritable incubateur pour des carrières qui vont ensuite se continuer. Et c'est un joyau qu'il faut faire fructifier, qu'il faut faire évoluer aussi, qui a des enjeux stratégiques qui sont encore largement devant nous et qui sont liés aussi à la transformation de la place de la santé publique dans notre système de santé dans une période
en particulier. Alors je rappelle quelques chiffres, hein, 1100 élèves, 1000 conférenciers, 15 universités partenaires dans le monde, 22 000 ouvrages. Alors vous connaissez bien le milieu de la santé, en particulier évidemment le milieu hospitalier, puisque vous formez les cadres dirigeants. Justement, on trouve que cette gouvernance, elle est plus vraiment adaptée en 2022. C'est vrai ou pas ?
Il y a un enjeu d'adaptation, c'est évident. C'est-à-dire qu'on a des formations qui, historiquement, ont été des formations assez administratives, il faut bien le dire, qui sont très importantes, parce que les établissements hospitaliers, ce sont des machines très complexes, y compris du point de vue de leur financement, de leur réglementation, qui est très dense, et on comprend immédiatement pourquoi. Donc, il y a besoin de formations solides dans ces domaines-là, mais il y a aussi besoin de renouveler ces formations. Le monde hospitalier, on le sent dans l'actualité immédiate, est confronté à des défis qui sont nouveaux, qui sont brutaux, que ce soit l'épidémie.
Quand je parlais de gouvernance, certains disent qu'il n'y a pas assez de gouvernance médicale.
C'est des équilibres qui ont été modifiés par différentes réformes depuis un certain temps, parfois au bénéfice effectivement des directions administratives. Il y a probablement des éléments de rééquilibrage à faire. Pour ce qui nous concerne, ce qui est très important, c'est que les acteurs qui sont formés à ces postes-là intègrent dans leur formation même une capacité à dialoguer sur des bases scientifiques, sur des bases médicales, par rapport à des enjeux de santé publique, avec les professionnels de santé, mais en réalité pas seulement avec les professionnels de l'hôpital, avec les professionnels de l'environnement dans lesquels les établissements doivent s'inscrire, avec plus de porosité entre le système sanitaire et le système médico-social, avec la ville également, et puis avec des questions de santé publique qui concernent tous les citoyens en réalité. Et l'hôpital a un rôle à jouer qui est nouveau de ce point de vue-là.
Et l'idée, c'est d'essayer d'éviter les fuites généralisées de cadres vers
C'est un enjeu qui n'est pas spécifique au monde de la santé, mais qui est particulièrement criant ces derniers temps.
Alors, une de vos autres préoccupations, parce que je sais que vous êtes hyperactif, c'est la sécurité alimentaire. Vous ne vous faites pas que des amis dans le monde des lobbies de l'agroalimentaire. Quand vous parlez d'influence, de lobby, même jusque chez les politiques, très rapidement.
Oui, on vient de publier avec Joanne Cortinas un ouvrage qui s'appelle Des lobbies au menu, et où on étudie de manière sociologique, scientifique, par une enquête empirique avec des méthodes, etc., la manière dont s'organisent différentes activités qu'on appelle habituellement de lobbying, d'influence, que nous on appelle des activités politiques des entreprises, et qui sont déployées pour essayer de peser favorablement sur des décisions publiques. Donc on a regardé ça systématiquement.
On s'aperçoit que les politiques apparaître.
Oui, alors les politiques sont exposés évidemment à ces activités-là. On les a vus tous apparaître dans certains débats. On a tous en tête le débat sur la mise en place du Nutri-Score que chacun d'entre nous voyons quand on va faire nos courses au supermarché. Mais au-delà de ça, il y a une activité qui est une activité régulière, récurrente. Et grosso modo, on a essayé de cartographier, de calibrer trois principaux types d'activités. Les politiques sont visées, au sens où toute une série de professionnels, d'organisations dédiées cherchent le contact avec les politiques.
Il y a des clubs jusque dans l'Assemblée nationale.
Absolument, il y a plusieurs clubs qui sont spécifiquement consacrés à ces questions alimentaires, et avec des enjeux qui sont par ailleurs tout à fait intéressants et légitimes, mais qui crée un espace de circulation des idées. Donc les politiques sont exposées, les acteurs administratifs sont exposés, mais c'est loin d'être les seuls. Pour ma part, je suis académique, je suis scientifique. Le monde académique est aussi très exposé, avec d'autres types d'organisations qui, par des financements de recherche, par des conseils scientifiques parfois, par des chaires, contribuent aussi à introduire un dialogue en amont du travail avec les politiques, pour travailler les connaissances, pour les orienter, parfois pour les biaiser, pour sélectionner certains types de résultats. Et donc, on a essayé de regarder ces deux types. Et un troisième type qui est moins connu, c'est la manière dont ces acteurs-là s'associent à des acteurs qui ont une image très favorable, très positive, des acteurs philanthropiques, des acteurs sociaux, des acteurs sportifs, pour améliorer leur image et parfois pour dégrader celle de leurs adversaires, en les pointant du doigt, en les nommant, en les stigmatisant et parfois en les poursuivant en justice.
J'imagine. Et juste en deux mots, je sais que vous faites partie du conseil scientifique Covid. Pessimiste, optimiste, vigilant ?
On est vigilant, c'est pour le moins. On est dans une phase d'accélération de l'épidémie, qui est une phase d'accélération assez forte. C'est loin d'être la première. Nous savons collectivement ce qu'il y a à faire. plus de protection, et ça relève de la responsabilité de chacun.
Et pas de coercition
À ce stade, pas vraiment, mais vraiment insister sur la protection, dans certains lieux probablement, dans les transports, dans les magasins. On arrive dans les déplacements, les grands déplacements des vacances, le train est très sollicité, faisons attention. Et puis deuxième message très fort sur les enjeux autour de la vaccination, en particulier des personnes vulnérables et, qui sont plus exposées que d'autres. Parfait. On réduira pas tellement la transmission avec la vaccination.
Mais en diminuant les formes sévères.
On diminuera les formes sévères. L'impact sur l'hôpital qui est très fatigué, très épuisé et doit être un point de vigilance aussi.
Merci beaucoup Daniel Mesnamouzik. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avant les grandes vacances.